10 jours qu'il dérivait. 10 jours qu'il gonflait à la main ce radeau de survie toutes les 2 heures, le vidait en permanence de toute cette eau qu'ils embarquaient. 10 jours qu'ils dérivaient sur cette mer qu'ils avaient tant souhaitée. 10 jours déjà qu'ils avaient vu sombrer leur petit voilier sans rien pouvoir faire, sans comprendre cette rupture de la jupe d'étanchéité de leur transmission de moteur en cell drive. Ils se rappelaient ce remplissage si rapide du bateau, l'inutilité de leur pompe de cale, l'enfoncement de la coque et leur fuite in extremis dans ce radeau orange rond, inconfortable, mal foutu, mal conçu, mal équipé, mais répondant aux soi-disant normes de sécurité fixées pour les navires battant pavillon français. Elles auraient tant voulu avoir avec eux un de ces fonctionnaires ronds de cuir merdiques qui gonflent le monde avec leurs règlements débiles, coûteux et inadaptés. Au moins, ils auraient eu quelque chose à se foutre sous la dent. Ça ne doit pas être fameux, le fonctionnaire débile, mais ça leur aurait fait tant de bien de mâcher quelque chose. Après 10 jours, même la viande pauvre et adipeuse d'un vieux fonctionnaire rance et sclérosé. Heureusement, ils avaient eu le temps de jeter dans le radeau cette grosse touque en plastique étanche fixée dans le cockpit du voilier, ce qu'il appelait son kit de survie perso. On y trouvait tout un tas de choses utiles en vue de s'en tirer, mais jugées non nécessaires par l'administration française. Des salinisateurs solaires, lampes torches à chargeur solaire vraiment étanches, arbalètes de chasse sous-marine, un vrai matériel de pêche, de vrais couteaux, une fouine, un cerf-volant, tout un tas d'autres objets utiles. Les crampes d'estomac avaient disparu vers la fin du 4e jour, mais restait cette sorte de crispation des maxillaires, douloureuse, et ce vide obsédant qui envahissait tout le corps, accompagné d'un genre de faiblesse insurmontable, et l'esprit embrumé, ensuqué en permanence. Elle souriait, tentant de gommer cette image de détresse qu'il voyait d'elle. Il plaisantait pour lui faire oublier l'image que donnait son propre visage mangé de barbe, dans lequel les yeux prenaient de plus en plus de place et les joues de plus en plus de creux. Ce visage où ses pommettes hautes et rondes de breton mongoloïde étaient remplacées par la pointe sèche de ses os proéminents. La faim et la soif transforment vite un visage en expression squelettique de la mort. Tout n'était pas perdu, ils avaient de l'eau. Il restait de l'eau maintenant saumâtre qu'ils avaient récupérée lors de la journée de pluie de la première semaine. Bonjour, mauvais jour, le dessalinisateur donnait son petit demi-litre. Le poisson du premier jour était loin. La mouette dévorait encore chaud le 4e aussi. La déception d'avoir vu les soi-disant tablettes de survie se dissoudre en haute mer du 4e chavirage s'était effacée depuis 6 jours. Depuis 6 jours, il n'avait absolument rien mangé. Il savait qu'il ne durerait pas une semaine de plus. Peu à peu, la désespérance les prenait. Comme pour rire, il dit « On est vendredi aujourd'hui. On se marie dimanche, si tu veux. » Elle fut sidérée de cette proposition, lui, le sauvage, le farouche, l'anticonformiste. Lui qu'elle aimait, venait de lui demander sa main, après plus de 10 années de vie commune et quelle vie. S'il acceptait cette idée de mariage, c'est qu'il se sentait mourir, et lui offrait cette petite joie conformiste avant. Ce n'était pas possible, il s'était même fâché avec ses parents à elle, qui voulaient les aider un peu en échange de ce mariage formalité, qui aurait calmé leur incompréhensible et judéo-crétine notion de cette liaison. Elle allait se marier, la petite fille chantait en elle, « Je vais me marier ». Ce grand couillon dont elle partageait la vie aventureuse depuis plus de 10 années, ce grand couillon qu'elle aimait passionnément, allait l'épouser. Elle en oublia sa faim, ses crampes et maxillaires, sa lassitude, les furoncles qui avaient fleuri sur tout son corps. Depuis qu'il marinait dans cette eau froide, sur ce voile de caoutchouc qui était censé les isoler de l'abysse. En mettant de l'ordre dans ses cheveux poisseux et collants de sel avec ce peigne qui, on ne sait trop comment, s'était retrouvé au fond du radeau, elle essayait de se donner le visage resplendissant de ceux qui, comme il le disait, se préparaient à faire la connerie de leur vie. Il riait en lui parlant de Bombard, du docteur Bombard, qui expliquait si simplement le pourrissement du corps observé sur lui-même. D'abord la macule, puis la papule, et enfin la pustule. Il chantait en riant avec cet humour si particulier qu'elle lui connaissait bien. « Quand j'avance, tu m'accules, comment veux-tu que je papule? Comment veux-tu que je pustule ?» Il apprécia de l'avoir tenté de se mettre en ordre. L'idée était bonne, son moral à elle remontait. Il savait que le secret de la survie survie était dans la force morale. Les Robertson avaient survécu à quatre par le moral. Lombard l'avait prouvé. Le japonais, frustre et simple, Pumli, avait survécu plus de 90 jours. Il connaissait aussi l'aventure de Catherine Pletz et de Lucien Schiltz. Ils en avaient également tiré des leçons. Cette idée lui donnait deux journées de plus, deux journées d'espoir et de survie volées au temps. Le jour tombé, elle s'était rincé le visage et les mains avec une petite cuillère d'eau de rosée recueillie de ses paumes dans la bâche du radeau. Elle se sentait bien comme après une vraie toilette. Elle posa sa tête sur l'épaule décharnée de son ennemi et blottit l'un contre l'autre. Ils regardèrent une nouvelle fois le soleil plongé derrière l'horizon. Sa nuit à elle fut bonne et décorée de rêves d'organdie, de couronnes de fleurs d'oranger, d'une pluie de grains de riz et de petits enfants déconneurs en costume du dimanche. Une noce campagnarde sur une prairie verte et fraîche, une prairie gorgée d'eau douce et des nappes blanches et fleuries. Elle vit dans son rêve de nuit tout ce à quoi elle aspirait, des cœurs de salade finement ourlés, ornés de rosée, des brocs de verre remplis de citronnade fraîche, des enfants rieurs comme ceux qu'il devait lui faire, et lui, son homme, bien rasé et la peau hydratée, resplendissant avec cet œil plein de désir que l'alcool lui allume à petite dose. Elle vit cette nuit-là le vert de la végétation dans son rêve, comme jamais elle n'avait vu de vert, comme si cette couleur de la végétation était symbole de vie, symbole d'eau douce. Sa nuit à lui fut encore une nuit de semi-veille comateuse et décopage épisodique. Toutefois, la mer s'était bien calmée. Il n'avait plus à faire cette sorte de gymnastique acrobatique qu'il pratiquait depuis 3 jours pour maintenir le radeau à l'endroit. Au matin, elle paraissait relativement fraîche. Son œil était rieur et câlin. Il se félicitait d'avoir eu cette idée de mariage qui lui faisait oublier la souffrance, l'humidité, la faim et la désespérance. Au 11e jour, la faim, la soif, la souffrance étaient gommées par ce rêve de petite fille. Elle commença sa journée par un inventaire détaillé de tous leurs biens pour tenter d'y dénicher quelque chose qui pourrait faire office d'alliance. Après de multiples essais d'anneaux de porte-clés, d'œillets de bâche, de bouts de fil d'avançon de pêche, elle opta pour deux petites manilles fixées à la couronne de filin autour du radeau. L'essayage de son alliance à lui tourna court lorsque, sous la douleur provoquée par les essais d'enfilage de la manille lyre trop étroite, il affirma que ça irait pour la cérémonie. Il savait déjà que si elle lui passait ce truc au doigt, il ne pourrait plus jamais l'enlever. Il garda cette pensée pour lui, étant trop heureux de voir sur elle l'effet de cette idée ridicule mais magique. Pendant qu'il pêchait, elle lava sa chemise et la mit à sécher sur la tente du radeau. Vers midi, une superbe dorade mordit à l'hameçon, et il parvint à remonter à bord. La fête, la vraie. La fête, ils mangèrent des filets crus, sucèrent la moelle de l'arête dorsale. Il la força à manger les yeux du poisson, après qu'elle eut bu le sang frais de la bête, et même une veine. Croquer des yeux de poisson cru n'était pas vraiment le genre d'entremets qu'elle préférait, mais il prétendait que c'était réellement plein de liquide, et c'était vrai. Tout l'après-midi, elle suça les os de la tête de la dorade. Elle s'en foutait de tout. Il allait l'épouser, et seul, cela comptait. Heureusement pour eux, ils avaient la bonne culture de survie. Et sur tirer de ce poisson tout ce qui était liquide, il pressa quelques morceaux pour en exprimer le jus dans le presse-fruit dont ils avaient équipé son kit de survie. Elle était belle, nourrie, abreuvée et heureuse en cette veille de mariage. Très vite, sa peau devint moins parcheminée et son regard clair et joyeux éclatait dans son petit visage décharné. À l'énonciation de cette idée de mariage, il avait toujours répondu « plutôt crevé ». Il riait intérieurement de ce stade de la survie auquel ils étaient rendus. Le mariage demain est pratiquement aussi certain, la mort après-demain. Il lui devait bien ça, ce petit bout de femme courageuse, qui depuis 10 ans l'accompagnait dans ses errances et ses galères. La construction d'un voilier pour un tour du monde par les Alizés ensemble, ça crée des liens, alors mourir pour mourir, marié ou non, si ça devait pour elle enjoliver l'agonie. De toute façon, il était décidé à ne pas la laisser souffrir de la soif. Et il savait qu'au stade du délire et de la folie, s'il n'avait pas sombré avant elle, il lui ferait la peau pour abréger l'horreur. Lui faire la peau. Drôle d'expression française, pensait-il. Cette peau de rousse, si fine, il lui devait ses plus grands bonheurs. tissait son corps d'étoile, selon l'expression de Brel. Il ne lui restait au grand moment commun que la couleur de ses cheveux dans les yeux et la douceur de sa peau dans les paumes et sur les doigts. Les deux dernières sensations terriennes identifiables à l'instant de la petite mort. Il n'avait pas encore décidé comment il lui ferait la peau, mais il le ferait. Il lui enlèverait la conscience pour lui éviter l'horreur. Il penchait pour un atémie, un coup du lapin en français, pour lui arracher la conscience en souffrance, briser cette nuque si fraîche, le faire vite et fort. Déjà, à l'envers de ses yeux, il voyait cette image insoutenable. Pourtant, il savait qu'il pouvait et devait accomplir ce geste qui enlève la vie avec force et précision. Il le devait, bientôt. Il n'avait jamais tué d'être humain, mais bien souvent, il avait tué des animaux pour les manger. Et il se savait capable de tuer par appétit. Il se sentait capable de le faire par amour. Il savait qu'il la tuerait par amour et très vite, l'immergerait pour ne pas être tenté par son corps. Tendre masse de protéines et de liquides. Il savait qu'il devait le faire vite, très vite. Encore un coucher de soleil rouge sur le ciel et sur cette mer vide. Et demain pour elle serait ce grand jour, vers lequel toute sa vie de petite fille de famille chrétienne l'avait préparée. Demain, elle se mariait. En tant que commandant de bord d'une unité naviguant sous pavillon français, il avait le droit de procéder à ce mariage civil. Le maître après-Dieu de toute embarcation naviguant sous pavillon français et, quand les circonstances l'exigent, investi de fait des droits et devoirs d'officier d'état civil. Encore une nuit de rêve pour elle, encore une nuit de souffrance et de désespoir pour lui, qui depuis 12 jours rognait sur sa consommation d'eau pour elle, sans qu'elle ne s'en rende compte. Ce jour-là était le dimanche radieux qu'il lui avait promis. La mer envoyait d'une houle ronde provenant de très loin. Dès le lever du jour, elle se pomponnait, se coiffait. Il n'était que 7 heures, et la cérémonie était prévue pour 10 heures. Elle se tressa une jolie couronne de varech luisant et des bracelets de laminaire. Il regardait sa petite agitation heureuse avec tendresse, obsédé et attristé par l'idée d'après. À genoux, face à face sur le caoutchouc mouillé et souple du fond du radeau, de petites mares se formaient à leurs genoux sous leurs articulations douloureuses. Il fit un petit baratin sur le thème du meilleur et du pire, et il les déclara unis. Pour le bonheur et pour le rire, sur une échéance qu'il annonçait comme étant jusqu'à ce que mort s'en suive. Elle avait le regard rieur, il était tourné vers elle et derrière elle, regardait vers le sud. Elle, derrière lui, regardait vers le nord, vers la direction où devait se trouver la côte. Plus la cérémonie avançait, plus son sourire devenait éclatant, rayonnant, irradiant. Une fois qu'elle lui eut enfoncé de force et sans ménagement à la prince multiprise son alliance magnilire, en lui faisant saigner la phalange, elle l'embrassa goulûment. Puis le fixant dans les yeux, lui tenant les mains, elle dit « Ton cadeau de noces est là, il est arrivé. » Au début de la cérémonie, j'ai vu un petit point noir à l'horizon derrière tes cheveux. Puis ce point a grossi. C'est précisé dans ton dos, à moins d'un mille, il y a un carférie qui a mis en panne et descend en ce moment une chaloupe à la mer pour venir nous sauver. Alors, tu montes dans cette chaloupe avec ton épouse légitime ou tu préfères plutôt crever? Elle partit alors d'un de ces rires clairs qui rayonnaient de joie pure en faisant de grands gestes de bras à l'attention des sauveteurs qui dans l'embarcation se détachaient déjà de la muraille immaculée du ferry. Sur les ponts duquel se massait une foule silencieuse. Elle riait en disant « Tu boiras toute l'eau dont tu t'es privé pour moi. Tu n'auras pas à abréger mes souffrances comme tu le prévoyais et comme je souhaitais que tu le fasses. Mais tu t'es fait faire au pâte, mon petit gars. » Amaigrie, amoindrie, affaiblie, elle était triomphante. Un silence étonné et respectueux les accueillit sur le pont du ferry. Elle rayonnait en rayon comme un astre dépenaillé. Il était heureux. Son doigt goûtait doucement un sang appauvri sur le bois blanc du pont, si stable et si dur. Lui s'affaissait tout doucement entre les bras de ses deux énormes mastards qui le soutenaient. Dieu que ça paraît grand et magnifique, normal et en bonne santé lorsqu'on vient de passer 12 jours dans un radeau de survie.